Donc aujourd'hui, ce sera pas avec l'apôtre Pierre que nous allons discuter, mais donc sur ce sujet de la manière d'organiser l'Église, une Église locale, avec aussi des associations dont on parle souvent, que l'on crée pour gérer une Église locale. J'aimerais juste prier avant qu'on commence. Seigneur, c'est toi qui as créé l'Église, c'est vraiment ton projet original, efficace, qui a été maintenu dans tous les siècles et dans toutes les circonstances, même les plus terribles. Ton Église a tenu parce que c'est toi qui la tiens. Et nous voulons te prier de nous aider. Maintenant, même si ce que nous allons dire est peut-être un peu... Je ne pense pas que ce soit compliqué, mais... Voilà, c'est pas quelque chose qui encourage peut-être comme des psaumes ou des épîtres, où là on va chercher ce que dit la Bible sur l'organisation de l'Église, mais puisque c'est pour ton Église, c'est important pour toi, et donc c'est important pour nous, et nous te prions que ton esprit nous guide, nous aide à dire les choses, à comprendre les choses, et surtout à discerner chacun, puisque nous sommes engagés dans cette Église, à discerner ce que tu veux pour cette Église par rapport à ta parole. C'est vraiment cela que nous voulons pour que cette Église te glorifie. Alors nous nous attendons à toi. Amen. Amen. Voilà, avant d'aborder donc la question même de la manière de diriger une Église, de l'organiser et les associations qui y sont liées, je voudrais donner quelques mots d'introduction qui sont importants. Nous avons dans la Bible des enseignements concernant l'organisation de l'Église, mais ils ne sont pas très nombreux en fait. On a beaucoup d'enseignements sur la manière de vivre la vie chrétienne, les uns avec les autres, chacun, mais sur l'organisation de l'Église, Dieu ne les a pas fait très nombreux. J'ai essayé, alors je n'ai pas tous fait parce que ce n'est pas l'objet premier du sujet, mais j'ai repéré 4 versets qui peuvent donner les grandes lignes de ce que Dieu veut pour l'Église. Le premier, c'est... On pourrait peut-être éteindre ces lumières-là. Voilà. Il faut toujours se rappeler ce que veut dire le mot « église ». Ça vient donc du grec « ecclesia ». Et « ecclesia », ça vient de « ekkaleo », ça veut dire « appeler hors d'eux ». Il faut toujours, et moi je me rappelle toujours, parce que ça donne le sens de l'église, Jésus a dit « Je construirai mon Église », ça veut dire « Je vais appeler hors du monde, hors de la société, des gens pour me suivre. Je construirai mon Église ». À l'époque de Jésus, il y a des gens qui bâtissent, enfin qui créent leur Église. Voilà, j'ai dit je fais mon Église, c'est-à-dire je vais prendre des gens qui vont me suivre et suivre mon enseignement. L'Église de Jésus-Christ, nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes des hommes et des femmes qui un jour ont choisi de suivre l'enseignement de Jésus et donc d'aller derrière lui. Il nous a appelés à aller derrière lui pour écouter son enseignement et pour le suivre. C'est ça l'Église au sens le plus basique du terme, mais c'est vraiment une base importante. Nous sommes, en venant ici, nous décidons que nous suivons Jésus qui nous a appelés derrière lui. Deuxième chose dont il faut se rappeler toujours, c'est que qui est le chef de l'Église? Vous trouvez ça dans Éphésiens 1, verset 22. Qui est le chef de l'Église?
Le Christ.
Le Christ. C'est le Christ que Dieu a donné pour chef à l'Église. Alors ça, c'est très sécurisant pour les responsables d'Église, parce qu'ils disent « Moi, je ne suis pas le chef, il est là-haut ». Et je peux vous dire que souvent, on se réfère à ça en disant « Mais Seigneur, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas la main, que je ne peux pas faire changer, mais toi, tu es le chef et toi, tu peux intervenir. » Mais c'est aussi un rappel constant que personne n'est le patron dans quelque église locale que ce soit, que le dernier patron, le grand chef, c'est Jésus-Christ. Et que si on commence à prendre la place du grand chef, alors là, on commence à s'éloigner de la volonté de Dieu. Souvenir toujours que c'est Jésus, le chef de l'Église. Maintenant, concernant la manière de vivre la vie d'Église, au niveau de l'Église en général, non pas au niveau des relations interpersonnelles, ça, il y a beaucoup de choses, mais au niveau de l'Église en général, il n'y a pas grand-chose. Et moi, je retiens surtout ce texte de Corinthiens, 1 Corinthiens 14, « Que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Il semble que Dieu ait laissé une grande liberté dans la manière de vivre la vie d'Église. Par contre, ce que Dieu veut, c'est que ça se fasse avec bienséance, et respect les uns des autres, avec la pudeur, voilà, avec ce qu'on appelle la bienséance, que les choses soient faites avec sagesse, mais ce qui n'implique pas la joie, ce qui n'empêche pas les pleurs, ce qui n'empêche pas des moments d'effusion, mais avec bienséance et avec ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, dit aussi l'apôtre Paul dans Corinthiens. Et puis, il y a aussi, au niveau de la vie d'Église, puisque le Seigneur nous a appelés à vivre une vie collective, eh bien, il nous dit aussi, ça se trouve dans Éphésiens, « Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. » Il y a cette notion que dans l'Église, il n'y a pas un groupe de personnes soumis à une personne qui doivent obéir au doigt et à l'œil. Non, c'est une soumission réciproque. « Soyez soumis les uns aux autres. » Mais toujours dans la crainte de celui qui est le chef de l'Église, de Jésus-Christ. Il y a donc cette recherche et cette écoute de l'autre, quel qu'il soit, jeune ou plus âgé, la soumission les uns aux autres pour dire, ben oui, peut-être que moi, là, j'ai besoin que quelqu'un me dise si c'est juste ce que je fais, si j'exagère, si je pense bien, mais peut-être sera moi qui devrais le dire à un autre frère, à une autre sœur la prochaine fois. Il y a cette idée de soumission réciproque et donc d'humilité aussi réciproque dans l'Église. Il me semble qu'avec ces quatre grands versets, on peut bien sûr trouver d'autres choses, mais on a les grands principes, mais il n'y a pas beaucoup plus. Ça veut dire, s'il n'y a pas beaucoup plus, c'est qu'en fait, il y a un cadre général et qu'à l'intérieur, Dieu nous laisse la liberté, j'allais dire, d'inventer la vie d'Église comme on le veut. Et je pense que c'est tout à fait, si j'ose dire ça, intelligent de la part de Dieu, hein, avec tout le respect que je lui dois. Parce que le projet de l'Église de Jésus-Christ, il doit être vécu sous toutes les latitudes, sous toutes les cultures, avec des gens qui sont persécutés à trois ou quatre dans un coin de cave parce qu'on veut pas, ils doivent pas être vus, ou alors avec des grandes églises où il y a beaucoup de gens, il faut tout organiser. Mais tous ces groupes différents, ça peut pas se gérer de la même façon. Et puis ça peut pas se gérer aussi en fonction de la culture, en fonction des époques aussi. Et donc Dieu a eu l'intelligence de nous laisser un cadre général très important, mais à l'intérieur nous laisse toute liberté pour vivre une vie d'Église intéressante à sa gloire. Et donc il y a des pratiques diverses, et vous voyez dans la chrétienté, par exemple les catholiques ont, je ne dis pas que toutes les choses sont bonnes et bibliques, mais les catholiques ont une organisation particulière, avec un grand chef au-dessus de tout, qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, hein, notre bien-aimé Benoît XVI, voilà, mais qui n'est plus Benoît XVI, voilà. Donc, chose que, vous savez, les protestants au XVIe siècle ont complètement rejeté en disant il n'y a pas à avoir un seul chef à l'Église. Le seul chef, justement, c'est le seul qui vaille, c'est Jésus-Christ. Donc nous sommes inscrits en faux par rapport à cette structure d'Église. Les luthériens, donc, et les réformés issus du protestantisme et les évangéliques ont d'autres manières de vivre. Mais même chez les évangéliques, la manière de vivre, de faire Église diffère. On ne vit pas tous la vie d'église de la même façon, et c'est normal puisque, je vous l'ai dit, le cadre n'est pas très précis, parce que justement Dieu nous laisse cette responsabilité de découvrir une vie d'église que nous croyons juste. Ça dépend de l'histoire. Les méthodistes, par exemple, il y a des méthodistes évangéliques, vous savez, issus de la prédication de Wesley, ça a été des gens, c'est pour ça qu'on les appelle méthodistes, parce qu'ils sont très méthodiques, et ils ont installé des églises, il y en a pas mal, enfin un certain nombre en France, qui sont dirigés par un évêque. Donc il y a l'évêque des méthodistes en Suisse et en France. Là, il y a 2 ans, il a décidé que, alors, je pense en discutant avec ses frères, mais que tous les pasteurs allaient changer. Donc par exemple, celui d'Alès est allé à Agen, celui d'Agen est allé à Strasbourg. Voilà, et c'est le pasteur ne discute pas, c'est l'évêque qui lui dit tu fais ça, et puis il le fait. Voilà, c'est à la mode catholique, et c'est pourtant des évangéliques. Et ils pensent, d'après la Bible, que c'est juste. Et je ne veux pas les contredire. Il y a plusieurs façons de voir, parce que le Seigneur nous a laissé plusieurs façons. L'essentiel, c'est que, justement, chacun se laisse diriger par le Saint-Esprit. Je ne dis pas que moi, je choisirais ça, hein, mais je veux respecter cette organisation. Nos amis aussi des églises baptistes, eux, sont très congrégationalistes, c'est-à-dire que ils ont une église, c'est elle qui décide, l'église locale, et la fédération des églises baptistes, par exemple, ne peut pas avoir la main mise sur l'église locale. On est aussi un peu comme ça à France Mission, peut-être un peu moins, mais voilà, c'est l'église locale qui décide tout. Dans d'autres églises, justement, comme les méthodistes, l'évêque prend des décisions pour les églises. Ça aussi, vous ne pouvez pas vraiment voir exactement si c'est juste ou pas juste, parce que c'est plutôt un choix que certains croient voir pouvoir faire à travers la parole de Dieu. Mais si Dieu n'a pas été plus précis, c'est que ça ne doit pas être très important. Il nous demande surtout d'être soumis les uns aux autres et soumis au Christ. Vous avez nos frères des assemblées de Dieu qui, eux, donc, ont un pasteur qui est l'homme qui est le président de l'association, on va en parler, l'association, et ce pasteur a une autorité vraiment particulière, la plus importante, même s'il est entouré par un conseil. C'est un choix qu'ils ont fait, qui, d'évidence, a porté beaucoup de fruits, qui a ses avantages et ses inconvénients. Voilà, c'est la même chose. Alors que, par exemple, les églises de frères, dont souvent les églises France Mission sont issues, ont fait le choix inverse, souvent. Ils ont dit, nous, on ne veut surtout pas de pasteur, il y a un conseil de frères, on est tous égaux les uns avec les autres, et on dirige l'église avec une équipe. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans, mais juste pour dire, voilà, laissons le Saint-Esprit nous diriger, et ne croyons pas que ce que nous avons nous-mêmes, ce pourquoi nous avons opté, est un enseignement biblique inscrit dans, ou fondé dans du béton, et que c'est vraiment, n'en faisons pas un dogme, ce n'est pas une loi biblique, c'est la manière dont on a pensé qu'on pourrait vivre la vie d'Église, à partir du cadre général. À France Mission, donc l'église dont vous faites partie, enfin l'union d'églises dont vous faites partie, on est entre les églises de frères et puis des églises baptistes. C'est voilà, un peu entre les deux, assez congrégationaliste, c'est-à-dire l'autorité à l'église locale, mais aussi avec une union d'églises qui, avec qui on peut discuter, qui donne des grandes orientations. Voilà, on est un peu entre les deux. C'est voilà, plus c'est un choix comme, qui a été fait. Et donc, ce que je me propose de faire, donc, parce que, effectivement, le conseil m'a demandé ça, j'ai une certaine expérience à travers le fait que, donc, en étant directeur du CNEF, je connais pas mal d'églises, j'ai rencontré beaucoup d'églises et de responsables d'églises. Également, j'ai été une quinzaine d'années donc responsable pastoral d'une église de France Mission. Donc, ce que je vais vous expliquer là, c'est plutôt le point de vue de l'union d'églises dans laquelle vous êtes et dans laquelle nous sommes, pour justement donner quelques explications sur la manière dont ils proposent que les églises s'organisent. C'est d'ailleurs un choix, l'organisation proposée par France Mission, qui est en général le choix des églises qui appartiennent au réseau FEF, hein, l'ancienne Fédération évangélique de France, et aussi plutôt des églises de type baptiste dans notre pays. Alors, il nous faut, donc si je parle maintenant du choix de notre famille d'églises, donc France Mission, mais vous verrez que ça n'est pas uniquement pour France Mission et que c'est aussi bien ancré sur les enseignements de la parole de Dieu. Il nous faut distinguer 2 domaines. J'ai oublié de te demander à quelle heure il faut que je finisse.
Comme tu veux.
Ça, c'est, j'aime pas cette réponse. Non, mais il me semble, il y a quelque chose un peu après, non? Il n'y a pas.
Ouais. c'est à moins 10.
Moins 10, d'accord. Il nous faut, pour parler donc de l'organisation d'une église locale, il nous faut distinguer deux grands domaines. Ce que j'appelle le domaine spirituel, c'est-à-dire ce que nous vivons, frères et sœurs, par rapport à notre Dieu, dans la puissance, dans la communion de l'Esprit. C'est pour ça que je parle de spirituel. Ce que nous vivons dans notre relation d'Église avec notre Dieu, et entre nous, bien sûr. Et puis après, ce que j'appelle le domaine civil. Parce que c'est un peu comme quand Jésus a répliqué à Pierre, par rapport à l'impôt. Il a dit, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et rendre à César ce qui est à César. Mais c'est la même chose ici. Nous vivons le domaine de Dieu entre nous, mais nous avons aussi des comptes à rendre. Parce que le maire de Chartres, par exemple, il est normal qu'il se pose la question, mais qui sont tous ces gens qui se réunissent dans cette salle? Est-ce que cette salle est aux normes de sécurité? Est-ce qu'on les connaît? Est-ce quelle est la doctrine qu'ils professent, etc. Il est normal que le chef de la ville s'intéresse à autant de concitoyens qui se réunissent aussi souvent et aussi régulièrement. Nous avons donc un devoir, comme le dit Jésus, à rendre à Dieu ce qui est à Dieu, mais aussi rendre à César ce qui est à César. C'est dans ce sens-là que, au niveau du domaine spirituel, je vais donc d'abord parler de ça, nous constituons une église constituée des membres adultes et non adultes. Les enfants font complètement partie de l'église. Les personnes qui ne sont pas forcément membres de l'église et qui viennent régulièrement, ils sont aussi, ils font partie de l'église au sens large d'ici. Et les responsables ont un devoir aussi de veiller sur l'ensemble des personnes. Du moment qu'une personne est à Jésus-Christ, elle fait partie de la grande église de Dieu, et donc si elle vient là, elle est un membre du corps de Christ. Donc l'Église, c'est l'ensemble de toutes les personnes que Dieu aime et que Dieu veut vraiment voir grandir au sein de ce formidable projet qu'est l'Église, de ce corps qu'est l'Église. Ensuite, nous avons, d'après la parole de Dieu, les anciens. On appelle ancien, c'est un peu le mot sage, hein, comme on l'utilise encore en Afrique. Hein. Voilà, c'est des gens qui ont déjà vécu avec le Seigneur. C'est pour ça qu'on les appelle anciens, ou des vieux aussi, on dit en Afrique. Hein. Mais qui ne sont pas forcément tous vieux, ni aux cheveux blancs. Hein. Mais c'est des gens qui ont une expérience de vie avec Dieu, et qui a été reconnue. Et pour France Mission, le pasteur, quand il y en a un, et c'est la plupart du cas, c'est la plupart du temps le cas dans les églises de France Mission, le pasteur fait partie de l'équipe d'anciens. C'est un ancien parmi les anciens, le pasteur. Sauf que sa particularité, c'est qu'il a en général plus de temps à consacrer à l'église, un plein temps, de plus en plus, c'est parfois des pleins temps partagés, quoique c'est pas forcément, ça se développe pas forcément comme ça, mais voilà, c'est un frère qui a plus de temps pour l'église, qui a aussi parfois été pasteur dans d'autres églises, une plus longue expérience, qui a parfois fait peut-être des études spécifiques, la plupart du temps, mais voilà, c'est un ancien au niveau du statut parmi les anciens. Les anciens avec donc le pasteur forment ce que France Mission propose d'appeler le conseil pastoral. Un pasteur, pastoral, ça veut dire berger. Hein, c'était un autre mot pour le berger. Donc le berger, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prend soin des brebis. Il leur donne à manger à travers la parole de Dieu. Il veille sur elles, ou il les surveille, au bon sens du terme, veiller sur. C'est-à-dire, il regarde son troupeau, s'il y en a une qui boite, une qui est malade, une qui est fatiguée, une au contraire qui a envie de passer devant et qui a envie de prendre des responsabilités pour l'encourager. Voilà. C'est ça, un pasteur. Et les anciens sont aussi, dans ce sens-là, pasteurs, bergers. Ils regardent le troupeau, ils surveillent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que même dans la parole de Dieu, on appelle ça des évêques ou des épiscopes. En grec, ça veut dire « regarder par-dessus hein ». Donc, il donne à manger, il surveille, et puis il conduit aussi. Un berger conduit son troupeau là où on peut manger, justement. Et il veille sur les chemins, et donc il conduit, le berger conduit ses brebis. C'est le rôle du conseil pastoral. C'est une responsabilité spirituelle. Il prend soin de la vie spirituelle des membres de l'Église. Je me permets d'insister un petit peu là-dessus, parce que je pense que c'est vraiment important. On a parfois, en particulier dans les églises de frères, qui est un peu aussi votre origine, mis un peu tout le monde sur le même... On n'a pas voulu faire de distinction, et je connais des églises de frères qui, faute d'avoir fait les distinctions, d'avoir reconnu formellement des anciens, eh bien, faute de l'avoir fait, il n'y a pas vraiment personne qui ose prendre des initiatives, et l'église tourne un peu en rond, parce que justement, le berger, il doit un jour décider d'aller dans une direction. Et c'est ce que doit faire le conseil pastoral. J'aimerais qu'on prenne, alors je ne vais pas le lire entièrement, mais dans Acte 15, il est parlé des anciens. Et il y a eu un problème qui s'est posé dans les nouvelles églises, à Antioche notamment. Et devant ce problème, ils ont dit « on va aller en parler à l'église de Jérusalem, qui était donc la première église ». Et donc, on va leur en parler pour savoir ce qu'ils pensent. Et on voit, j'ai pas le temps de tout regarder là, mais si vous voyez, regarderez dans Acte 15, qu'est-ce qui se passe? Ils ont une grande discussion. Et c'est vraiment une grande discussion. Ils ont dû monter un peu la pression parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Et au bout d'un moment, vous voyez ça dans Acte 15, au verset 6. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire, et après une vive discussion, Pierre se leva et leur dit. Voilà. Donc vous voyez, les apôtres et les anciens, apôtres c'est ceux qui étaient les implanteurs d'église, hein, donc on pourrait dire les pasteurs aussi, ils se sont retrouvés, c'était leur responsabilité d'examiner la question. Et vous avez vu qu'ils n'étaient pas forcément d'accord entre eux. S'il y a eu des vives discussions, c'est qu'a priori, quand tout le monde est d'accord, on n'entend pas trop discuter. Hein. Voilà. Mais c'était pas un problème, ils ont bien discuté justement. Et après, qu'est-ce que vous voyez au verset 22? C'est très intéressant de voir. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens, donc le conseil pastoral, ainsi qu'à l'église entière, de choisir parmi eux et d'envoyer, etc. Voilà. Et puis, qu'est-ce que dit ensuite Pierre? Je crois qu'il prend la parole après. Il dit... Vos frères, au verset 23, les apôtres et les anciens, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, etc. Encore une fois, les apôtres et les anciens. Ils se sont laissés diriger par le Saint-Esprit, vous voyez, au verset 28, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Donc c'est des responsables qui ont beaucoup discuté, qui ont certainement prié, qui ont demandé la sagesse du Saint-Esprit, et qui en ont parlé à l'ensemble des frères et sœurs de l'Église, hein. Ça c'est très important, c'est l'Église qui décide, mais la recherche de la volonté de Dieu s'est passée par les anciens et les apôtres, ou le conseil pastoral ici. Et donc cette responsabilité spirituelle de chercher la face de Dieu, de chercher où on doit conduire l'Église, les orientations à donner. Vous trouvez aussi dans Acte 20, on ne va pas le lire, Paul s'en va à Jérusalem, mais en passant au bord de la mer, là, il appelle les anciens d'Éphèse et il leur dit « Venez les amis, je passe ici, je suis sur la plage, là, venez, on va parler ensemble. » Ils ont prié ensemble, ils ont pleuré ensemble. Qui a-t-il appelé Paul? Les anciens. Il ne pouvait pas appeler toute l'Église, mais ceux qui avaient la responsabilité spirituelle, il les a appelés. On peut trouver aussi dans 1 Timothée 3 les qualités que doivent avoir les anciens. Je ne vais pas y revenir, si vous voulez prendre les coordonnées, vous pourrez le lire. Et puis également, et ça je vais le lire parce que vous savez que j'aime beaucoup l'apôtre Pierre, 1 Pierre 5, Pierre était ancien aussi, c'était un ancien d'une église, vous savez qu'il était expérimenté, et il dit au verset 1 du chapitre 5, « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances et participant à la gloire qui doit être révélée, faites paître ou nourrissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, de bon cœur, non pas en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. » Pierre avait compris l'enseignement du Christ qui disait que si on veut être responsable dans une église, il faut devenir serviteur. Il faut laver les pieds des autres. Ce qui montre, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis les anciens dessous l'église. Vous voyez, c'est pas comme dans les entreprises, vous avez le petit personnel, le moyen personnel, et puis le PDG qui a une moquette deux fois plus grande et qui est souvent en haut du bâtiment, et sur les organigrammes, il est en haut. Non, dans l'église, ça se passe complètement à l'inverse. On est serviteur de l'Église. Et c'est pour ça que l'autorité dans l'Église, ça sert non pas à écraser, mais ça sert à soutenir. Ça sert à épanouir, à faire s'épanouir l'Église. Ça sert à repérer les dons qui existent, à les aider à s'épanouir. Ça sert à faire grandir l'Église. Une Église qui n'a pas d'autorité spirituelle ne grandit pas. C'est comme un corps sans colonne vertébrale. Il ne sera jamais debout. Mais l'autorité sert à faire grandir l'Église, à aider l'Église. Un berger, ça ne sert pas à écraser ses brebis. Non, il leur veut que du bien, au contraire, parce qu'il gagne son argent avec ça. Ce n'est pas le cas des anciens, mais il veut que, les anciens ne veulent que du bien pour l'Église, les faire grandir, les faire prospérer. Donc, les anciens sont là, et ils ont la responsabilité spirituelle. Ensuite, vous avez les diacres, qui forment ce que France Mission appelle le conseil d'église. Les diacres, ce sont les responsables d'activités dans l'église. Quand quelqu'un est responsable d'une activité, et donc il est nommé, reconnu comme diacre. Alors, je ne dis pas que ça se passe toujours comme ça, mais il faudrait veiller à ce que ça se passe comme ça. Et ils ont une responsabilité organisationnelle. Heureusement qu'il y a des responsables d'activité dans l'église, hein, pour que l'ensemble du corps de l'église fonctionne bien en pratique. Que l'église, ce soit un lieu où il fait bon vivre, où les choses soient organisées, où on puisse discuter entre nous, se concerter, etc. Et le texte, ça me permet de gagner du temps, puisque notre ami Denis l'a lu dimanche dernier, pour montrer qu'une église, effectivement, qui grandit comme celle de Jérusalem, dans Acte 6, devait justement changer d'organisation. Et Dieu n'a pas figé les organisations, justement parce qu'une église grandit, et dans ce cas-là, il faut changer l'organisation. Vous vous souvenez, dans Acte 6, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là dimanche, il y avait trop de monde, et les apôtres, ils n'arrivaient pas à la fois à prier pour l'église, à enseigner la parole, mais aussi à servir tous ceux qui devaient être servis au niveau des activités sociales. Et ils ont donc dit, mais attendez les amis, nous on ne peut plus, il y a des gens qui se plaignent, eh bien choisissez cette personne qui soit vraiment, qui a un bon témoignage, et choisissez-les pour servir aux tables, et nous, nous consacrerons notre temps à la parole de Dieu. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, il y a eu nomination de diacres, d'une équipe de serviteurs, oui, de servantes, qui se sont occupés de cette activité sociale dans l'Église. Les apôtres ne pouvaient plus tout faire. Il faut savoir réfléchir à ça et réfléchir à l'évolution de l'organisation d'une Église quand celle-ci grandit. Et dans ce cas-là, eh bien, peut-être les anciens pouvaient tout faire avant, et après, non, il doit y avoir un conseil d'Église qui fonctionne. Vous avez également, dans 1 Timothée 3, les qualités que doivent avoir les diacres. Et vous verrez que, justement, ces personnes, dans Acte 6, ont été reconnues par l'Église. On a prié pour eux. Je pense que c'est très important. Des fois, on ne se rend pas compte. Quelqu'un prend une responsabilité dans l'Église, on dit « Ah oui, c'est bien ». Mais en prenant une responsabilité dans l'Église, il prend aussi le risque d'avoir des coups, d'avoir de l'opposition spirituelle. Parce que, par exemple, de diriger le chant pour la louange de Dieu, la louange est tellement importante pour Dieu que vous pensez bien qu'il y en a un qui va tout faire pour que ça ne se fasse pas bien. Eh bien, il faut prier pour les responsables de louange. C'est un moment extrêmement important pour Dieu. Par exemple, donc il faut prier pour eux et reconnaître ce ministère, et que, en particulier, les anciens doivent prier pour les responsables d'activité. Je prends cet exemple, on pourrait bien sûr en prendre d'autres. Aucune activité n'est pas importante dans l'Église. Pour terminer sur cette première partie, je voudrais simplement vous faire remarquer que être ancien ou être diacre, ce sont des charges, ce que en théologie on appelle ça des charges, c'est donc pas des dons que Dieu a donnés en tant que tel, quoique ça nécessite des compétences, mais en tout cas ce ne sont pas des fonctions honorifiques. En disant, mais maintenant quand même, ça fait 30 ans que je suis dans l'Église, je devrais quand même avoir la barrette d'ancien. Non, ça n'a rien à voir avec ça, vous comprenez bien. Dans la pensée de Dieu, un ancien, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves et donc qui est reconnu par l'ensemble de l'Église. Donc il n'y a pas de jalousie à voir ou autre, au contraire. Mais c'est quand quelqu'un prend cette charge d'ancien, s'il faut prier pour lui, pour justement, là aussi, une vraie protection. J'ai parlé des diacres, mais bien évidemment, prier pour les responsables de l'Église. Dans l'Église, et ça je peux vous le dire, sur l'ensemble de l'Église évangélique en France, ceux qui sont les premiers visés, ce sont les responsables. Que si on peut avoir, si Satan peut avoir un responsable, il affaiblit toute l'Église. Et priez aussi pour les épouses des responsables, qui sont souvent la cible d'attaque, parce que justement, elles collaborent avec leur mari. Et Satan sait très bien que si l'épouse n'est pas en pleine forme, le mari aura plus de soucis. Voilà. Et que l'épouse prend aussi des responsabilités dans la prière pour son époux. Maintenant, passons au domaine civil. Dans Romains 13, il est dit, c'est un chapitre très important, « Soyez soumis aux autorités ». C'est la raison pour laquelle il nous faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Romains 13, verset 1, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. » Donc, quand il s'agit d'avoir une relation avec la société qui nous entoure et avec, dans laquelle nous sommes et avec laquelle nous devons avoir des relations, eh bien, il y a en France une bizarrerie, c'est qu'il existe des associations, donc on nous demande de nous mettre en association, c'est pas une obligation d'ailleurs, sachez-le, hein, on n'est pas obligé de se mettre en association, mais France Mission le conseille, et l'ensemble des églises évangéliques le conseille, parce qu'on a, voilà, pourquoi ne pas le faire, une association pour célébrer le culte. Alors, d'où ça vient ça ? C'est qu'en fait, en 1905, il y a eu, en fait, dans les années qui ont fini le 19e siècle et commencé le 20e, vous savez qu'il y a eu l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus qui a dressé deux Frances l'une contre l'autre. Une France, en fait, cléricale avec l'Église catholique et une France anticléricale. Et il y a eu vraiment une énorme opposition contre les catholiques, qui aurait même pu aller plus loin, et on aurait presque pu, parce qu'il y avait là aussi des lobbies qui agissaient, devenir carrément libre-penseur, athée. Voilà, on aurait pu avoir une constitution complètement athée. Heureusement qu'il y a certains hommes, comme Briand par exemple, Aristide Briand, qui ont limité les dégâts, mais vous auriez eu Clémenceau à ce moment-là. Lui, c'était ce qu'on appelait à l'époque un bouffeur de curé. Hein. Il pouvait pas avoir un curé en peinture. Hein. Et il voulait empêcher tout ce qui était catholique de pouvoir avoir une quelconque présence, une quelconque aide de l'État, etc. Mais ils sont allés quand même assez fort, hein, vous savez. Donc vous aviez Briand, vous aviez Ferdinand Buisson, vous aviez Émile Combes, vous aviez Jules Ferry. Hein. Jules Ferry, d'ailleurs, qui a bien limité les choses pour que la décision soit assez équilibrée. Mais quand même, en termes de décision, ils ont décidé à partir du 9 décembre 1905, ils ont dit à l'Église catholique, toutes vos églises, là, une par village, ça fait quand même 36 000 villages en France, hein, elles deviennent la propriété de l'État français, point à la ligne, et vous n'avez rien à dire. Comme décision politique, c'en est une. Hein. Je ne dis pas qu'elle est juste ou autre, je ne veux pas la commenter, mais c'était une vraie décision. Et après, ça devient notre propriété, et nous, on vous les met à disposition. Et donc, cette loi de 1905 a séparé l'Église de l'État. Donc, en disant, la religion n'a rien à faire avec l'État, et l'État n'a rien à faire avec la religion. Et donc, ils ont constitué une association, mais ils n'ont pensé qu'à ça, une association, ou presque qu'à ça, une association faite pour célébrer le culte. Ils n'ont pas d'ailleurs donné de définition ce qu'était un culte, puisque dans leur tête, il n'y avait qu'un seul culte, c'était le culte catholique. Ils avaient oublié qu'au XVIe siècle, les protestants avaient quand même... ça a fait une part notable de l'histoire de France, malheureusement, avec les guerres de religion. Et donc, ils ont créé une association de loi de ce qu'on appelle la loi 1905, mais qui, malheureusement, n'est faite que pour célébrer le culte, c'est-à-dire vivre ce qu'on a vécu ce matin, quasiment, donc le temps du dimanche matin pour nous. Ça a été calqué sur l'Église catholique, et c'est encore un problème maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'autres religions qui sont venues en France, et la loi n'est plus adaptée. Je vais essayer de dépêcher quand même, mais je pense qu'on ne peut pas parler des associations sans donner un peu le contexte. Et donc, ils ont fait des associations dites cultuelles, 1905. Ces associations ont en particulier, parce que là aussi c'était pour donner aussi, ils ont quand même pensé aux autres cultes qui étaient bien minoritaires, ils ont voulu donner quelques avantages, donc ils ne payaient plus, parce qu'on sortait du concordat de Napoléon, où Napoléon payait les prêtres, les pasteurs, et les rabbins, hein, comme ça se fait d'ailleurs encore en Alsace, hein, et en Moselle. En Alsace-Moselle.
Alsace-Lorraine.
Non, Moselle. La Meurthe-et-Moselle n'est pas sous le Concordat, il n'y a que la Moselle. Voilà, c'est encore là aussi une particularité. Donc, l'État ne paye plus les prêtres, mais les ministres du culte, ce qu'on appelle les ministres du culte, mais alors il a dit, on va quand même aider aussi les autres cultes, et on va les aider en prenant en charge l'impôt foncier, donc qui peut être assez cher pour une église, parce que c'est souvent des grands bâtiments. Donc c'est l'État exonère d'impôt foncier les églises, et aussi a permis que quand on met de l'argent dans l'offrande, tout ce qui est donné pour le culte, eh bien, il y a une déduction fiscale dessus. Alors ça paraît très bien, et c'est très bien aussi, hein, mais ça complique beaucoup les choses. Dès que les impôts donnent des droits, après il faut le vérifier derrière. Je ne tiendrai pas les moins 10. Hein. Je vais essayer avant midi. Donc il y a des impôts fonciers, il y a des déductions fiscales sur les offrandes, et à cause de ça, les impôts ont un droit de regard sur les documents comptables des associations cultuelles 1905. Et ils le surveillent. Maintenant, pour les autres activités, eh bien, l'association cultuelle ne peut pas fonctionner puisque ça ne rentre pas. Et il faut justement que l'argent qui rentre dans l'association cultuelle et qui peut bénéficier de déduction fiscale, il ne faut pas qu'il serve à autre chose, puisque l'intention des politiques, c'était que l'argent dont j'enlève une partie parce que je veux aider les religieux, je leur accorde une déduction fiscale, mais que pour l'argent qui sert à célébrer le culte, qui sert à payer le pasteur, qui sert à payer le bâtiment. Mais si c'est de l'argent pour que le groupe de jeunes aille faire du foot d'un tel stade, non, ça c'est plus pour célébrer le culte. Donc ça, le fisc ne veut pas prendre des déductions fiscales là-dessus. Donc il faut bien séparer les deux, et c'est ça la grosse difficulté. Enfin, c'est entre autres ça. Donc pour les autres activités, eh bien, on fait des associations, loi 1901, que nous connaissons tous, hein, qui sont très très nombreuses en France et qui fonctionnent très bien, que beaucoup de pays nous ont imité. Donc on fait des associations 1901 qu'on appelle des associations culturelles. Alors le drame en France, et en français plutôt, c'est que le mot cultuel et le mot culturel, il n'y a qu'une lettre qui diffère, c'est le R, hein, au niveau de la phonétique. Dans d'autres pays, ça peut être complètement différent dans d'autres langues. Mais chez nous, c'est... Alors, on se mélange les pinceaux. C'est pour ça que je parle jamais, moi, de cultuel et de culturel, parce que à force de le dire, on se trompe. Je parle de 1905 pour le culte et de 1901 pour tout ce qui n'est pas du culte. Voilà. Donc, pour tout ce qui n'est pas du culte, par exemple, ça peut être justement un groupe de jeunes, ça peut être une activité sportive, ça peut être justement un comptoir de librairie, n'est-ce pas, Étienne, hein, toutes ces activités qui ne sont pas strictement liées au culte et à la célébration du culte doivent être gérées par une deuxième association distincte. Alors, la loi française ne nous simplifie pas la tâche. Parce que le problème, c'est que, alors, pour ceux qui sont loin, là, c'est une paire de bœufs qui tire une charrue. C'est que nous avons une charrue, ce qui fait l'essentiel du travail, c'est ce qui est vécu dans le domaine spirituel. Mais au niveau civil, il y a deux associations qui doivent représenter ça. Et il faut que ces deux associations tirent dans le même sens. Autrement, si elles tirent l'une d'un côté aussi et l'autre de l'autre, eh bien c'est un problème. Et ça peut être un problème dans les églises. Et j'ai malheureusement vu des églises où quelqu'un qui n'était pas trop content de celui qui préside l'association 1905, eh bien a pris des décisions dans l'autre association qui allaient contre ce qui était fait. Vous comprenez que voilà, devant le Seigneur, c'est pas forcément très bien, hein, mais il y a un enjeu là, et donc il faut bien travailler ça. Alors, comment, quelques mots pour que cette loi 1905, cette association 1905 et 1901 fonctionnent bien, parce qu'elles ont chacune, vous vous en doutez, une assemblée générale, un conseil d'administration et un bureau, et l'autre aussi. Hein. Donc, voilà, quelques conseils de fonctionnement, d'après ce que France Mission propose. En fait, c'est assez simple, hein. Il suffit que ce soit bien clair dans la tête. Hein. Et c'est vrai que c'est pas toujours clair. J'espère que ce sera plus clair. Le cœur de fonctionnement, c'est bien évidemment le domaine spirituel. On est là pour ça, pour notre Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Donc le reste, je dirais, c'est que l'interface entre la société et notre Église, il faut bien le faire avec soin, mais l'important, le cœur de fonctionnement, c'est la partie spirituelle. C'est donc le conseil d'Église et le conseil pastoral qui fonctionnent en permanence. C'est en dessous l'important. Donc, au cours des réunions donc, du conseil d'Église, il faut qu'il y ait en fait les deux secrétaires des deux associations qui, dans le compte-rendu, pour celui qui est secrétaire de la 1905 ou celle qui est secrétaire de la 1905, ils notent les points qui concernent la célébration du culte. Par exemple, quand on parle du local du culte, quand on parle du pasteur, du choix du pasteur, de différentes choses, ça c'est la 1905, le culte. Et puis quand on parle de l'autorisation à donner pour agrandir une librairie, pour que le groupe de jeunes puisse faire quelque chose, que le groupe de dames puisse faire un voyage, etc., là c'est la 1901 qui prend ça en charge. Il faut toujours avoir cette distinction, c'est ce petit problème qu'il faut gérer. Mais une fois qu'on est habitué, c'est pas un problème. Mais il n'y a pas deux réunions différentes, vous voyez. Non, parce qu'il faut que l'Église marche ensemble. Et que pour nous, le groupe de jeunes ou le culte, c'est aussi important, ça fait partie du plaisir, de ce qu'on fait pour faire plaisir à Dieu. Toute notre vie est un service pour Dieu. Donc on ne distingue pas les points importants, c'est le culte quand on chante, et puis le jeûne, c'est un petit détail. Non. Tout est culte pour Dieu. Mais dans la tête de celui qui a fait la loi, c'est pas ça. Donc on s'y adapte, c'est tout. Donc il faut qu'il y ait la même entité qui se réunisse et qui, en fonction des sujets, mette sur un compte-rendu sur un autre. Quant à l'Assemblée Générale, vous voyez que j'ai mis deux couleurs ici et une seule là. C'est parce que la couleur claire, donc le plus grand rond, c'est l'ensemble des gens qui viennent à l'Église. Mais dans l'ensemble des gens qui viennent à l'Église, il y en a qui ont fait le choix de s'engager dans l'Église et donc de devenir membres de la 1905 parce qu'ils sont adultes, parce qu'ils veulent participer à l'Église. Et il est normal, si on veut vraiment s'engager pour l'Église, de devenir membre de la 1905 en tant que frère et sœur en Christ, prêt à faire partager à l'Église ses dons, son énergie, son amour pour Jésus. Donc c'est un plus petit cercle en bleu foncé, et c'est ceux qui se retrouvent en AG. Donc ceux qui se retrouveront, si j'ai bien compris, dans 15 jours ici. Donc c'est eux les membres, dans ce cas-là, de l'Église, au sens officiel du terme. Qui peuvent, s'ils le veulent, on ne peut pas les obliger. La loi ne peut jamais obliger une personne à adhérer à une autre association, mais les membres de la 1905 sont invités à être membres, en général, de la 1901, de l'association donc dite culturelle. Ce n'est pas une obligation, mais là aussi, pour que l'Église fonctionne ensemble, il est normal que l'ensemble des membres disent « Oui, c'est aussi mon projet, et j'adhère aussi à cette association ». D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ça n'empêche pas certains membres de l'Église de créer d'autres associations. Moi, je connais une église en Alsace qui a monté une expo Bible. Et donc, ils auraient pu la mettre dans l'association de l'Église. Mais ils se sont dit, on va la mettre à part parce qu'on va la proposer à d'autres églises. Et c'est vrai que pour aller vers les mairies en disant, voilà, il y a une association qui veut faire une expo, il vaut mieux que l'association s'appelle Expo Bible. Et donc, ils ont fait une autre association, mais non, donc là, qui est gérée par quelques frères et sœurs de l'Église, parce qu'ils ont eu à cœur, le Seigneur leur a mis à cœur, ce moyen d'évangéliser ou d'enseigner. Hein. Mais donc, en général, une association, et ça c'est vrai aussi chez les musulmans, c'est vrai chez les juifs, chez les chrétiens, surtout les protestants et les évangéliques, ils ont toujours ces deux associations, 1901 et 1905. Voilà. Donc, quelques compléments au niveau des conseils. Au niveau des conseils des bureaux, donc déjà des conseils d'administration, c'est donc le conseil d'église qui, de fait, constitue le conseil d'administration de la 1905 et, a priori, celui de la 1901 aussi. Hein. Pour les bureaux, Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut... Vous voyez, c'est pour ça que je les ai mis dans la même couleur, hein. c'est les mêmes, et pour les bureaux, c'est apparenté, et ce qu'on conseille en général, c'est que ce soit un des anciens qui soit président de la 1905, donc président au niveau du bureau, hein, pour qu'il y ait aussi la cohérence, que ça travaille ensemble, que la responsabilité spirituelle, le culte et tout ça, c'est le domaine spirituel, soit géré par un ancien, en termes de présidence, peut-être qu'il y ait, s'il y a trois anciens ou quatre anciens dans l'église, qu'il y en ait au moins deux qui soient dans le bureau, mais il faudra aussi le trésorier, qui n'est pas forcément ancien, hein. Il faudra un secrétaire, qui n'est pas forcément ancien, qui peut l'être, hein. Mais il faut cohérence. Tout comme dans l'autre bureau, il ne faut pas forcément que ce soit un ancien, sur des tâches peut-être plus organisationnelles, mais que ce soit une personne qui soit forcément dans le conseil d'église, et en tout cas qui ait un travail, une osmose. Souvent, ce que font certaines, par exemple nos amis des assemblées de Dieu au niveau national, ils ont aussi deux associations comme ça. Dans l'un, un frère est président et l'autre vice-président, et puis ils ont inversé dans l'autre, celui qui était vice-président devient président et le président devient vice-président, pour qu'il y ait justement toujours une unité et qu'on travaille ensemble. Dans la loi, il est important que les bureaux ne soient pas identiques de part et d'autre. Autrement, justement, les contrôleurs fiscaux peuvent dire « Attendez, vous avez fait une séparation de nom, mais en fait, c'est la même association. Hein ». Donc, c'est important, alors pas forcément quand on démarre pour justement bien cadrer les choses, mais rapidement, qu'il y ait deux présidents et deux trésoriers différents dans les deux associations. Ce n'est pas une obligation, mais il faudrait y arriver le plus possible, parce que, justement, pour ces questions de ce qu'ils peuvent appeler des confusions d'associations. Voilà. Je termine en espérant avoir été clair sur l'importance, donc sur des points clés, du respect de l'autorité donnée par Dieu et reconnue par l'Église, pour que l'Église fonctionne bien, de ce fonctionnement en collégialité, c'est toujours un groupe qui décide, et c'est au final, pour les décisions importantes, l'Église entière rassemblée qui décide. On donne priorité au domaine spirituel, parce que l'Église n'est pas qu'une association humaine, hein, mais par contre, on respecte les données que la société nous impose, mais toujours en faisant en sorte que ce que nous impose l'État français d'avoir deux associations, ils fonctionnent bien l'une, l'autre, toujours main dans la main. Voilà. Avec des objectifs communs, une cohérence de fonctionnement et une cohérence d'autorité. Je terminerai en rappelant ce verset que je trouve très beau dans Romains 15. Toute la vie d'Église doit être tournée vers ce but, que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Glorifier notre Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas uniquement par des chants. Effectivement, d'une seule voix, mais aussi d'un commun accord. Que la vie de l'Église, on soit tous unis dans un seul sens pour glorifier, d'un commun accord, glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Qui peut dépasser, je suis désolé.